Bonjour, je suis Charlotte Champagne. Bienvenue dans un univers peuplé de curiosités, d'aventures et de partage de savoir. Vous êtes le genre de personne à avoir mille et une réflexions en même temps, à aimer les paradoxes, l'intrigue, parce que les histoires et les anecdotes, c'est la vie. L'idée ici est de raconter par épisode une story personnelle qui m'a interpellée et qui a pu vous arriver, et de l'analyser sous l'angle de la philosophie. Alors pourquoi la philo ? Parce qu'au-delà de son apparence farfelue et distante, la philo se retrouve partout dans notre quotidien. Mais surtout, elle est pleine de logique et de rebondissement. Alors mon ambition ici n'est autre que la transmission. Ne pas jeter les idées du passé qui nous semblent démodées, mais adopter un regard autre sur ce qui nous arrive, aussi ancien soit-il, qu'importe l'époque ou l'origine du philosophe. Alors si on essayait de détricoter nos péripéties sous l'angle de leur chef-d'œuvre. Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un courant qui m'a toujours intriguée et dont je n'avais jamais réellement saisi l'importance. Il s'agit du stoïcisme. Alors quand on recherche la définition du stoïcisme, dans le Larousse par exemple, on nous apprend que le stoïcisme, c'est l'école des stoïciens. Très bien, les stoïciens. Mais qui étaient-ils? Ou qui sont-ils? En effectuant une petite recherche rapide sur internet, on retrouve ceci. Le stoïcisme est une école de philosophie hellénistique, fondée par Zénon de Kition, au début du 3e siècle avant Jésus-Christ à Athènes, et qui porte sur la théorie de l'univers et de la logique. Plus tard, Sénèque, Épictète et Marc Aurèle rendront célèbre ce courant philosophique, qui sera cette fois plus centré sur l'homme, sur l'effort et sur l'intention du bien. Un peu plus loin, je retrouve également quelque chose qui me percute. Dans le stoïcisme, le bonheur désigne l'indépendance vis-à-vis des circonstances extérieures et le détachement à l'égard des choses. La maîtrise de nos représentations et l'exercice du jugement permettraient d'y accéder. C'est une philosophie de la liberté intérieure. Alors qu'est-ce que ça signifie ce détachement intérieur ? Dans le manuel d'Épictète, écrit par son disciple Flavius Ariès, ce détachement intérieur est expliqué comme tel. Ne demande pas que ce qui arrive, arrive comme tu veux, mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Alors, afin d'exemplifier cette philosophie, à nouveau, je voudrais vous parler d'une histoire personnelle. Quand j'étais petite, et même encore ado, j'avais l'habitude, avant une étape cruciale ou un examen, de prier. Le plus souvent, je faisais ça à ma fenêtre, en cachette. Car même si j'étais d'éducation catholique, c'était quand même un petit peu la honte d'avouer qu'on croyait, ou du moins qu'on espérait croire, à un bonhomme, un justicier planqué sur son nuage, pas comme ses occupations favorites, nous jeter des sorts ou nous envoyer des embûches sur notre route. Mais bref, tout cela étant dit, j'espérais, je l'avoue, que ce bonhomme soit là pour me filer un petit coup de pouce de temps à autre. Je priais toujours pour deux souhaits bien particuliers. 1. Dieu, s'il vous plaît, faites que je réussisse. Mais après, je me disais, mince, si on a droit qu'à une seule chose, qu'à un seul souhait, je devrais viser plus large. Du coup, le deuxième souhait était bien plus réfléchi. Dieu, s'il vous plaît, faites que je sois heureuse. Alors là, c'était la bonne planque. Et j'avais tout ce que je voulais avec ce deuxième souhait. Oui, si je suis heureuse, ça veut dire que j'ai réussi. Donc plus besoin du premier souhait. Mais au-delà de cette réussite, ce deuxième souhait m'assurait tout ce que je voulais. Être toujours gagnante, d'avoir un copain, une famille aimante, voyager, avoir un penthouse dans une grande ville, et j'en passe. Mais là, vous vous dites, c'est quoi le rapport avec le stoïcisme ? Justement, vous ne pensez pas qu'il y a un petit problème avec ce deuxième souhait ? Faites que je sois heureuse. En demandant à Dieu de faire en sorte que je sois heureuse, et que le terme heureux englobait l'entièreté de mes souhaits, et même de mon existence, je laissais à Dieu le pouvoir sur ma vie. Autrement dit, je déléguais. Et c'est exactement là qu'intervient le stoïcisme. Ce dernier nous apprend comment faire la part des choses entre ce qui dépend de nous, ce sur quoi nous avons une prise, et ce à quoi nous ne pouvons rien faire, et contre quoi il faut cesser de lutter ou de s'acharner. En gros, moi je pensais pouvoir commander ce souhait, parce que ça ne dépendait pas de moi, n'est-ce pas, d'être heureuse. C'était extérieur à moi, non ? Or, dans le stoïcisme, le bonheur lui-même se trouve par l'indépendance vis-à-vis des circonstances extérieures, et par le détachement à l'égard des choses. Le fait de maîtriser nos représentations, nos pensées, notre volonté et nos jugements serait la clé pour accéder au bonheur, nous mettant dans un état de liberté interne. Mais par quel moyen peut-on se libérer des choses sur lesquelles nous n'avons pas de prise, me direz-vous ? Eh bien, selon les stoïciens de l'Antiquité, ce serait par la raison, en effet. Par exemple, un dictateur peut nous emprisonner, nous torturer, mais il ne pourra jamais nous faire penser ce qu'on ne pense pas. Dans le manuel d'Épictète, on retrouve deux astuces intéressantes pour se libérer par le détachement. D'une part, il nous faut ramener les choses extérieures mentalement à leur réalité matérielle. Il nous dit, si tu aimes un objet, il faut délier cet objet de tout sentiment affectif, car s'il vient à se casser, tu n'en seras pas troublé. D'autre part, par le biais de la visualisation négative. Ainsi, il faut toujours se préparer mentalement à l'action en prévoyant les problèmes à venir. Il faut visualiser les embarras, les vivre en fait à l'avance dans notre esprit, afin de les supporter plus facilement s'ils surviennent. Là, vous me direz, c'est bien beau d'avoir la liberté de penser, mais si je souffre physiquement, que je ne vois plus ma famille, mes amis, que je suis enfermée dans un cachot, je ne peux quand même pas être heureux. Alors d'une part, il faut voir le modèle de pensée inversement. Si je n'ai pas de prise quant au fait d'être martyrisée et enfermée, je peux tout de même tenter par mes pensées, par ma raison, d'adoucir mon existence et même d'accéder à une sorte de bonheur. Pourquoi ? Parce que selon les stoïciens, on est capable d'aller vers cet idéal, de ne pas dépendre de nos émotions ou de nos désirs, ce qui inclut le manque de notre famille, le mal, etc. Ce sera difficile, mais ce sera faisable. Ça dépend de nous, j'ai une prise là-dessus. La logique ici est le fait que le bonheur est le contraire du désir. Le désir est un sentiment qui nous habite, qui manifeste un manque dans l'objet extérieur à moi. Donc faire dépendre mon bonheur de cette chose extérieure à moi serait une hérésie. Pourquoi ? Car quand je ne suis plus en manque, je ne désire plus. Donc il faut supprimer le manque selon les stoïciens. Le bonheur est donc de ne plus dépendre de ses désirs. Ce qui amène les stoïciens à conclure qu'on peut être heureux même dans la souffrance et même si notre famille nous manque par exemple. Mais effectivement, ce sera une tâche difficile. Ainsi, Marc Aurèle, grand empereur romain stoïcien, nous aide un peu mieux à comprendre cette situation du prisonnier, car il écrit dans son ouvrage Les Pensées « Tu n'as pas besoin d'aller loin pour t'isoler, il suffit que tu ailles en profondeur, en toi, intérieurement. » Donc au final, s'échapper de sa cellule pourrait très bien se faire de manière intérieure, via nos pensées. D'autre part, il faut souligner que la définition actuelle du bonheur a évolué, quant à celle qui autrefois se limitait à la vertu, et que par ailleurs celle-ci varie selon les auteurs. Par exemple, déjà selon Aristote, dans son ouvrage Éthique à Nicomaque, la portion magique du bonheur ne se limite pas à la vertu, mais devrait contenir trois ingrédients. L'honnêteté, une certaine aisance matérielle, ainsi que la reconnaissance sociale. Alors, je ne vais pas retracer ici toutes les différentes visions philosophiques du bonheur. Je vous invite à aller lire Kant, Sénèque ou Épicure si vous voulez en apprendre davantage. Mais je préciserai juste que cette définition de bonheur est loin d'avoir fait l'objet d'un consensus et varie d'une culture à l'autre, d'une religion à l'autre ou simplement d'une personne à l'autre. Mais quoi qu'il en soit, pour en revenir à mes prières, on comprendra aisément le problème qui surgit. Le risque de passivité, que je ne prenne pas les choses en main pour être heureuse. Or, s'il n'y a pas de définition commune du bonheur, ce qui est certain c'est que nous devons tous être actifs à sa construction. Et ce tous les jours. Mais au final, est-ce que le fait de prier et de vouloir vraiment certaines choses, ce ne serait pas déjà tendre vers cet objectif? En d'autres termes, la prière n'est pas forcément synonyme de passivité. Pour Aristote, dans son ouvrage La Cité, prier, c'est s'adresser à l'autre, avec un grand A, sans jamais ne pouvoir présager de l'avenir de notre appel. Le fait de prier ne serait pas une manière, finalement, de s'encourager, de se rassurer en engendrant une action avec pour horizon ce souhait? Certes, nous ne pouvons pas présager la réalisation d'un souhait, mais nous devons contribuer à sa réalisation. Car ne pas être passif face à notre existence, c'est aussi être lucide par rapport aux choses qui doivent être changées et par rapport aux moyens utilisés pour changer ce qui doit l'être. La prière était donc peut-être un de ces moyens. Par contre, le fait de faire dépendre mon bonheur à des choses extérieures, telles que l'achat d'un penthouse ou le fait de faire un voyage, n'est sans doute pas très stoïque. Alors oui, il ne dépend que de moi de me donner les moyens d'acheter ce penthouse, mais c'est un désir, et ce n'est pas lui qui me rendra heureuse. Alors j'aimerais clore cet épisode par un souhait pour nous tous. Un de plus, mais que je ne dirai pas ma fenêtre en cachette cette fois. Personne ne te fera de mal, à moins que tu n'y consentes. Le mal ne viendra que lorsque tu jugeras qu'on te fait du mal. Il ne dépend que de nous de se délier de ce qui ne dépend pas de nous. Merci pour votre écoute.